Vous écoutez CILS FM.
Bienvenue dans le débrief, votre émission quotidienne d'information à l'antenne de CILS FM 107,9. Alexis Gagnon en votre compagnie pour la prochaine heure. Aujourd'hui en interview, nous rejoignons Aloïse Gallet ainsi qu'Alexa Camargo de la société Albor Pacifique. Ils sont à la tête d'une petite entreprise du côté de Vancouver, une entreprise qui se spécialise dans les services conseils en environnement. Ils ont récemment complété un projet ici dans la région de Victoria, du côté d'Esquimalt, à l'école Victor Brodeur, que vous connaissez bien. On en parle avec eux vers 16h40. On lance tout de suite les bulletins d'information de Denis Lépine. Je vous retrouverai dans quelques minutes avec la météo. Merci d'écouter CILS FM. La production du débrief est rendue possible grâce au financement du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Périple du premier ministre Trudeau en Chine, eh bien, Justin Trudeau a rencontré son homologue chinois Lai Keqiang. Ce dernier s'est réjoui de la décision du Canada de se porter candidat pour devenir membre de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Bill Morneau, ministre des Finances, a dit que pour réussir dans l'économie mondiale de demain, il nous faudra des partenariats stratégiques et une ouverture au monde entier. Pour sa part, Chrystia Freeland, ministre du Commerce international, a souligné que les projets de la banque devraient générer une croissance économique et une prospérité durable pour la classe moyenne. Après 3 mois de fermeture, eh bien la salle de consultation des archives du Musée de l'Amérique francophone sera à nouveau accessible aux chercheurs à compter du 4 octobre. Le Musée de la civilisation a expliqué dans un communiqué que la réouverture est rendue possible grâce à un don versé par le séminaire de Québec à la fondation du Musée de la civilisation. Stéphane Laroche, directeur général du musée, a dit se réjouir grandement de cette excellente nouvelle. Il a dit que cette entente démontre toute l'importance que l'institution muséale accorde à la recherche du savoir. Santé Canada annonce que le nombre de surdoses et de décès causés par des opioïdes est à la hausse partout au Canada. Santé Canada rappelle que le gouvernement est engagé à résoudre ce problème complexe de santé publique et que la gravité de cette crise au pays exige que les gouvernements travaillent ensemble et agissent aussi vite que possible afin de faire face à tous les aspects de la question. Selon un sondage Nielsen réalisé pour le commissariat aux langues officielles, 88% des répondants appuient les visées de la loi sur les langues officielles et 82% estiment que le 150e anniversaire du Canada devrait être une occasion de promouvoir les langues officielles au pays. Graham Fraser, commissaire aux langues officielles, doit d'ailleurs présenter aujourd'hui même d'autres résultats du sondage à l'occasion d'une conférence internationale sur l'aménagement linguistique à l'Université de Calgary. Stéphane Dion a fait une déclaration à propos du rapport du mécanisme d'enquête conjoint des Nations Unies et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques attribuant la responsabilité des attaques aux armes chimiques en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le Canada demande que les responsables de l'utilisation des armes chimiques aient à répondre de leurs actes. Stéphane Dion a mentionné qu'Ottawa est très inquiet à la suite des conclusions du mécanisme. Cette enquête démontre, selon Stéphane Dion, clairement que le gouvernement de la Syrie a utilisé à maintes reprises des armes chimiques contre sa population. Donald Trump a rencontré le président du Mexique, Enrique Nieto, hier. Il a été question d'immigration et d'économie. Rappelons que le président mexicain n'a pas été tendre à l'endroit de Trump au cours des derniers mois en raison de la position de l'homme d'affaires concernant l'immigration illégale. Enrique Nieto a rappelé à Donald Trump qu'il y avait des activités clandestines des deux côtés de la frontière. Il a dit aussi que le Mexique et les États-Unis ont besoin de s'entraider. Donald Trump a rappelé, lui, pour sa part, que les deux pays ont tout à gagner à travailler ensemble sans pour autant parler du fameux mur. 22,6 millions de dollars du gouvernement canadien iront à l'initiative à la recherche du prochain Einstein de l'Institut africain des sciences mathématiques. Ottawa a précisé que l'initiative vise à former des mathématiciens africains pour qu'ils trouvent des solutions permettant d'atténuer les changements climatiques ou de s'y adapter. L'Institut étudiera son modèle de formation de cycle supérieur en mathématiques avancées afin de mettre l'accent sur les changements climatiques. On rappelle que le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a conclu une entente de principe avec Poste Canada. L'entente de principe vise les unités urbaines et rurales. Les ententes de principe seront maintenant soumises au vote de quelques 50 000 travailleurs des postes à l'échelle du pays. Au sport, au tennis, au US Open à New York, Milos Raonic a été surpris par l'Américain Ryan Harrison, classé 120e au monde. L'Ontarien s'est avoué vaincu en 4 manches. Poursuite aujourd'hui des matchs de deuxième tour. Baseball majeur, victoire de Toronto 5-3 contre Baltimore. Les Blue Jays sont inactifs ce soir et ils seront à Tampa Bay demain. Au hockey maintenant, les Jets de Winnipeg ont nommé Blake Wheeler capitaine pour la saison 2016-2017. Dustin Byfuglien et Mark Scheifele agiront à titre d'assistants. Football canadien ce soir, Ottawa sera à Montréal. NFL match hors concours hier soir, gain de Washington 20-13 contre Tampa Bay. Et les derniers matchs hors concours auront lieu ce soir. 15 rencontres sont à l'agenda. À surveiller, la Nouvelle-Angleterre va se mesurer aux Giants de New York et les Steelers de Pittsburgh, eux, affronteront les Panthers de la Caroline.
Vous êtes à l'écoute de CLS FM 107,9 à Victoria. On vient d'entendre. Entendre les bulletins de Denis Lépine, notre fidèle collaborateur. On va passer maintenant à la météo. On a 16 degrés actuellement sur Victoria, 16 degrés seulement. C'est un petit peu frais en comparaison à la vague de chaleur qu'on a connue au mois d'août. Ça semble être la nouvelle donne pour les prochains jours. On a de la pluie sur le radar. On a des probabilités d'averses assez élevées. Donc de la pluie en soirée avec un maximum de 15 degrés. Demain, vendredi 2 septembre, ce sera 60% de probabilité d'averse, un mélange soleil-nuage au cours de la journée, un maximum de 16. Et si on se projette un peu plus loin dans le week-end, on a une journée nuageuse pour le 3 septembre. Ce sera donc un maximum de 18 que nous prédit Environnement Canada. Ensuite, pour dimanche 4 septembre, 19 degrés. Et le retour du soleil, quelques nuages seulement, donc pour dimanche 4 septembre, week-end de la fête du travail. On espère que vous allez en profiter. De ce pas, on retourne dans les bulletins d'information. On va écouter les informations des Nations Unies qui nous parviennent de New York tous les jours. Et on se retrouve dans environ 10 minutes pour la suite des infos. Restez à l'écoute.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longhi pour ce journal de la radio des Nations Unies. Avec à la une l'appel à la retenue de Ban Ki-moon après l'annonce des résultats des élections au Gabon, l'ONU qui réaffirme la nécessité d'obtenir une trêve en Syrie pour aider les millions de personnes piégées par le conflit. En cette période de rentrée scolaire, l'UNICEF tire la sonnette d'alarme face à la faible scolarisation des enfants dans le monde. Enfin, dans le dossier, retour sur l'accord historique entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC. Au Gabon, les médias font état d'un retour précaire au calme ce jeudi dans la capitale de Libreville. Mercredi, la capitale s'était enflammée suite à l'annonce des résultats officiels de l'élection donnant un deuxième mandat de 7 ans à Ali Bongo avec 49,8% des voix, alors que son opposant Jean Ping obtenait 48,2% des suffrages, soit une marge de 5594 votes. Les manifestants sont descendus dans les rues, le feu a été mis à l'Assemblée nationale et le quartier général de l'opposant Jean Ping aurait été bombardé, tuant deux personnes. Ce dernier appelle à recompter les votes, notamment dans la province natale de l'actuel président. Ban Ki-moon déploie des efforts pour aider les Gabonais à trouver une issue à l'impasse. Christina Silvero.
Suite aux violences qui ont suivi l'annonce des résultats électoraux à Libreville mercredi, le secrétaire général a exprimé sa profonde préoccupation. Ban Ki-moon a appelé les autorités à s'assurer que les forces de sécurité exercent la plus grande retenue face aux manifestations et a exhorté les dirigeants politiques concernés et leurs partisans à s'abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la paix et à la stabilité du pays. Prenant note des résultats provisoires de l'élection, le chef de l'ONU a appelé les dirigeants politiques à résoudre pacifiquement leurs territoires différents et à régler tout grief qui pourrait survenir à travers les moyens juridiques et constitutionnels existants. Aussi, Ban Ki-moon a demandé à son représentant spécial pour l'Afrique centrale, Abdoulaye Batili, d'accompagner les acteurs politiques gabonais dans leurs efforts visant à apaiser la situation et à résoudre pacifiquement les questions litigieuses émanant du processus électoral. Le secrétaire général, qui continue de suivre de près l'évolution de la situation et s'apprêterait à adresser un message de paix aux Gabonais.
Afrique toujours, l'UNICEF est préoccupé par le nombre de cas de choléra enregistrés depuis le début de l'année en République démocratique du Congo. Du 1er janvier au 7 août, 16 860 cas, dont 446 décès, ont été rapportés. L'UNICEF qui dit craindre que la situation ne continue à empirer dans les prochaines semaines, alors que la maladie se propage dans les régions situées le long du fleuve. Les explications de Franck Abeille, chef du service eau et assainissement au bureau de l'UNICEF en RDC.
L'un des foyers aujourd'hui du choléra est la zone donc du Maniema, la zone de Kisangani, qui communique avec l'ouest par le fleuve Congo. Là-dessus, vous avez beaucoup de mouvements. Vous avez des pêcheurs, vous avez des baleinières, vous avez des populations qui se déplacent d'une zone à une autre. Une des secondes explications, c'est également les pays voisins. On sait qu'en ce moment, du côté de Bangui, sur la rivière Ubangui, en République centrafricaine, le Congo également, ce qui fait qu'on se retrouve avec cette maladie qui se propage très très rapidement sur tout le bassin du fleuve Congo. Donc aujourd'hui, on a des stratégies qui se développent en milieu rural, initialement, donc là où est la maladie est présente maintenant, visant à travailler donc sur la partie préparation. On a ensuite la partie information, parce que c'est très important. S'il se passe quelque chose, il faut que l'on soit au courant de ce qui se passe et comment est-ce qu'on remonte les informations. Et ensuite, la partie réponse qui, elle, effectivement, est très, très opérationnelle.
On reparle de la Syrie et de la nécessité d'instaurer une trêve de 48 heures pour acheminer l'aide humanitaire indispensable à 13 millions de Syriens. Ce jeudi à Genève, devant la presse, l'envoyé des Nations Unies, Staffan de Mistura, a confirmé la poursuite des pourparlers entre les États-Unis et la Russie, pourparlers qui portent sur toute une série de questions et qui, selon lui, n'ont que trop duré. Staffan de Mistura.
Les discussions actuelles qui ont lieu entre les Américains et Russes à un niveau très haut et très opérationnel vont bien au-delà de la trêve des 48 heures. La pause des 48 heures était demandée par l'ONU pour donner du temps à la population pour qu'il y ait une trêve beaucoup plus efficace qui va bien au-delà d'Alep. La preuve, c'est Daraya. Donc, j'espère, et on aide pour que ces négociations et discussions qui ont duré trop longtemps puisse aboutir. Le temps est court parce qu'on arrive au 21 de septembre, il y a les G20 dimanche, il y a la population qui attend, donc la pression est forte.
Et puis, en ces jours de rentrée des classes pour des millions d'enfants dans le monde, l'UNICEF déclare aujourd'hui que dans les 10 pays affichant les taux de scolarisation les plus faibles, 40% des enfants n'ont pas accès à l'éducation de base. Les explications de Florence Westgaard.
C'est le Libéria qui est en tête de liste, avec près des deux tiers des enfants en âge de suivre une éducation primaire qui n'ont pas accès à l'école. Parmi ces 10 pays, le Soudan du Sud figure au deuxième rang, avec 59% des enfants qui ne bénéficient pas d'une éducation primaire, et alors qu'une école sur trois est fermée en raison du conflit. Ensuite viennent l'Afghanistan avec 46%, le Soudan, le Niger et le Nigeria. Autant de pays qui illustrent le fait que les urgences humanitaires et les crises prolongées empêchent les enfants d'aller à l'école. L'UNICEF craint que, faute d'éducation, une génération entière d'enfants vivant dans les pays affectés par des conflits, des catastrophes naturelles et l'extrême pauvreté grandiront sans pouvoir acquérir les compétences nécessaires pour contribuer au développement de leur pays et de leurs économies, ce qui aggravera la situation déjà désespérée de millions d'enfants et de leurs familles.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité, le gouvernement colombien et la guérilla des FARC sont arrivés le 24 août à un accord de paix après 52 ans de conflit armé. L'accord a été annoncé à La Havane à l'issue de 44 mois de négociations. Hélène Papper est directrice du Centre d'information des Nations Unies à Bogota. Elle indique que cet accord a exigé de longues discussions et de nombreux allers-retours. Elle est interviewée par Tiekura Guata de Mikado FM.
Ça a été un travail très long, ça a été un travail de négociation à la vanne entre les différentes parties, entre la communauté internationale, le gouvernement colombien bien entendu, et les FARC. Et ça a été un travail de longue haleine, avec beaucoup de révisions par rapport à un accord compliqué. Mais finalement, ils sont arrivés à clôturer les négociations et le cessez-le-feu officiel par les FARC est entré en vigueur.
Alors, il semble que l'accord ne fait pas l'unanimité dans tout le pays. Est-ce qu'on peut savoir ceux qui sont hostiles à cette paix et pourquoi ?
Certains sont hostiles parce qu'il y a cette impunité. C'est-à-dire qu'en fait, un accord, comme tous les accords de paix, c'est une histoire de compromis. Et certains estiment qu'il y a trop de compromis qui sont faits par rapport aux FARC. Ils ne vont pas pouvoir les mener en justice par rapport à certains qui ont commis des exactions et que certains ne comprennent pas finalement cet accord. Il faut, eux, semble, donner trop d'impunité par rapport aux FARC. Mais il manque encore toute une étape de compréhension de cet accord, de lecture de cet accord. Donc, je pense que l'opinion publique reste encore à être formée et je pense qu'on aura une réponse un petit peu plus précise une fois que cet accord sera entendu par toutes les parties de la population.
Alors, le 2 octobre prochain, l'accord sera soumis à référendum. Pensez-vous qu'il y a des chances que le oui l'emporte ?
Je pense qu'il y a de fortes chances que le oui l'emporte. C'est un accord qui a été mûrement réfléchi. Donc, je pense que c'est une question maintenant de l'expliquer et de montrer aux Colombiens que en acceptant cet accord, on entre dans une nouvelle ère, dans une ère de possibilité de vivre mieux et que, de toute façon, ce n'est pas du jour au lendemain que les choses vont changer, mais que c'est un pas énorme en avant. Il faut que les Colombiens intègrent ça à travers le pays pour qu'ils comprennent que l'accord, ce n'est que la première partie.
Alors, la transformation des FARC en mouvement politique légal est-elle, selon vous, l'unique chance d'arriver à une paix définitive en Colombie ?
Il faut faire attention lorsqu'on dit paix et unique paix en Colombie. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Colombie. Il n'y a pas aussi que les FARC. Il y a d'autres groupes armés qui se disent ici dans ce pays. Mais bien entendu, c'est un pas en avant très important. Et oui, il faut que les FARC, après tout ce travail, après tout cet effort, que les FARC puissent se retrouver, qu'ils aient aussi une voix en tant que parti politique reconnu et qu'ils puissent s'exprimer. Parce que si eux ne peuvent pas s'exprimer, en effet, on continue dans les tensions. En effet, on risque de continuer vers un chemin de violence et de guerre. Parce que c'est toute une partie de la population qui tente de s'exprimer aussi. Donc finalement, à travers cet accord, ils vont avoir une façon légale de s'exprimer. Et je pense en effet que c'est le chemin qui doit continuer vers l'avant.
Alors, comment les Nations Unies envisagent-elles d'accompagner le processus de paix en Colombie ?
Il y a 26 agences de ces Nations Unies qui sont ici dans le pays, qui vont continuer à faire le travail qu'elles font depuis des années au niveau du développement, au niveau de l'humanitaire. Elles vont continuer à accompagner ce pays dans tout le travail qu'il effectue et accompagner le gouvernement. Par ailleurs, il y a une mission des Nations Unies qui est en train de s'installer ici en Colombie, une mission politique de vérification qui va accompagner le processus de paix en cours pour s'assurer que les FARC déposent bien les armes et qui va accompagner le processus de réconciliation et de réintégration. C'est un mécanisme tripartite, donc qui va être entre le gouvernement, les FARC et les Nations Unies pour s'assurer que l'accord de paix est implémenté de façon correcte.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Vous écoutez CILS FM 107,9 à Victoria. On vient d'entendre, bien sûr, le bulletin de l'ONU, le bulletin quotidien des Nations Unies. On va passer à présent aux nouvelles provinciales, si vous le voulez bien. On commence avec une nouvelle qui concerne notre système de santé ici en Colombie-Britannique, mais qui concerne par extension le système d'accès universel aux soins de santé qui est en vigueur partout au Canada. Donc, il y a une cause qui est devant les tribunaux actuellement. Dr. Day. C'est un docteur qui a des cliniques privées. Il est devant la Cour suprême actuellement. Je vous lis quelques passages d'un papier qui a été publié sur le portail de Radio-Canada et qui fait un bon résumé de cette cause. Donc, ça s'intitule « Dr. Day contre Victoria, le procès qui pourrait changer le système de santé canadien ». La poursuite intentée par le docteur Brian Day contre le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique sera devant la Cour suprême de la province à partir du 6 septembre. Le médecin allègue que le fait d'attendre pour obtenir des soins de santé publics et de limiter les soins de santé privés à but lucratif est une violation de la Charte canadienne des droits et libertés. Brian Day poursuit cet article, est cofondateur du Cambie Surgery Center et de la Specialist Referral Clinic. Ces deux cliniques privées vancouveroises sont accusées de violer le Medical Act, la loi médicale de la Colombie-Britannique, en raison des pratiques de surfacturation et de double facturation. Le procès, d'une durée prévue de 6 mois, est très attendu partout au Canada, même s'il s'agit d'une cause provinciale, a déclaré la Coalition canadienne de la santé dans un communiqué récent. Donc, même s'il s'agit d'une cause provinciale, la décision de la Cour suprême de Colombie-Britannique pourrait avoir des incidences potentielles sur le système public de soins de santé au Canada. L'organisme Coalition canadienne de la santé craint qu'une décision en faveur du Dr. Day génère un système à deux vitesses et que cette décision ait des conséquences graves. Une manifestation citoyenne est organisée d'ailleurs, était organisée jeudi 1er septembre à Vancouver devant l'une des cliniques du Dr. Day pour protester contre les pratiques que souhaite imposer ce médecin. On se tourne à présent vers le Times Colonist, le quotidien qui paraît tous les jours ici à Victoria. On nous annonce dans le portail du Times Colonist aujourd'hui que le ministre de la Santé, Terry Lake, qui en est à son second mandat dans l'équipe de la première ministre Christy Clark, a annoncé qu'il ne comptait pas se représenter aux prochaines élections. Donc on sait qu'on attend des élections provinciales ici en Colombie-Britannique dans le courant de l'année prochaine. La date, évidemment, n'est pas encore connue précisément, mais Terry Lake a pris les devants cette semaine en annonçant qu'il ne se représentait pas dans sa circonscription de Kamloops North Thompson, qui est dans l'intérieur de la Colombie-Britannique. Il a cité des raisons familiales, notamment pour justifier cette décision. Rappelons que Terry Lake a été maire de Kamloops avant d'entrer sur la scène provinciale. Au cours de son mandat, dans les mois récents, il fera encore face au cours des prochains mois, à la crise sanitaire qui s'est déclarée dans le dossier des surdoses d'opioïdes, donc un sujet très sérieux qui a même mené à la déclaration d'un état d'urgence sanitaire en Colombie-Britannique. Donc Terry Lake, qui a été fréquemment dans l'actualité au cours des derniers mois, et qui le sera encore jusqu'à l'élection. Donc, il ne se représentera pas, c'est la nouvelle qu'il nous a annoncée cette semaine. On se tourne maintenant vers le média indépendant The Tie, qui est un média qui est installé ici sur l'île de Vancouver, un média très très à gauche, qui signale beaucoup d'enjeux environnementaux, accès au logement, accès au travail. Et dans le cas présent, je vous cite un article paru aujourd'hui sur le portail de Taï qui concerne les fameuses exploitations de pisciculture industrielle qui sont installées le long des côtes de l'île de Vancouver. Il y en a dans la région de Tofino, il y en a aussi dans la région de Campbell River. Et cet article rapporte qu'une manifestation de 50 personnes, dont l'immense majorité étaient des membres des Premières Nations, une manifestation donc s'est déroulée cette semaine pour contester l'activité de ces fermes géantes de saumon, donc ces piscicultures industrielles de saumon. Il y a une vidéo virale qui a beaucoup circulé au cours des derniers jours sur le net. On y montre des saumons apathiques, léthargiques, qui nagent de façon très lente dans les filets de ces piscicultures. On a eu plusieurs observateurs de la scène environnementale qui ont signalé que ces saumons étaient souvent malades et qu'ils nuisaient au stock de saumons sauvages. Donc, ils faussent la donne, ils font interférence, ils causent des problèmes environnementaux environnementaux et en plus, ils ne sont probablement pas bons pour la consommation humaine. Alors, c'est pour toutes ces raisons que les membres des Premières Nations se sont présentés et ont manifesté. C'était dans le secteur de Campbell River et ça s'est passé aujourd'hui. On avait 50 personnes dans cette manifestation. Si vous voulez les détails, vous aurez cet article sur le portail de Taï. Autrement, on retourne dans les pages web du portail de Radio-Canada. On nous signale qu'un feu de forêt agressif près de Lytton, dans le sud de la Colombie-Britannique, sévit actuellement. Il couvre désormais, aux dernières nouvelles, en fin de matinée, mardi, il couvrait 500 hectares. Aujourd'hui, jeudi, il couvrait 500 hectares. Le service des incendies de la province, BC Wildfire, a indiqué que des vents allant jusqu'à 70 km ont attisé les flammes. L'ordre d'évacuation imposé mercredi par le district régional de Thompson-Nicolas demeure en vigueur. Il touche actuellement 2 résidences à l'ouest du fleuve Fraser et 9 propriétés de la Première Nation Lytton. Une vingtaine d'autres propriétés au nord de Lytton jusqu'à la rivière Stein sont sous le coup actuellement d'une alerte d'évacuation. Les familles doivent être prêtes à quitter leur domicile à tout moment. Donc, on suivra cette information, cette actualité au cours des prochains jours. On retourne en musique quelques instants. On va écouter l'artiste David Thibault, une pièce qui s'intitule « Sous les mots ». Et de l'autre côté, on reprend avec la nouvelle du jour. À tout de suite.
La lune sourit, ça me fait rire et puis pleurer. Dit-elle dans matin chagriné, avec sa mine papier mâché. Elle s'est fait du spleen, un bon lit. Elle s'habille d'amour délavé. Un vieil hiver dans son café, remuer le couteau, ça lui plaît. Elle a des romans en fleuve qui coulent de ses yeux. Les histoires ne peuvent se finir à deux. Tu devrais peut-être sous les mots chercher. Sous les mots chercher. Sous les mots. Tu devrais peut-être sous les mots. L'amour est lent à la détente, ça me fait rire et moins pleurer. Dit-elle avec la qui passait, à qui la question est posée. Elle a des romans pleurs qui coulent de ses yeux. Les histoires ne peuvent se finir à deux. Seul dans la pente, des courants d'air dans ta valise. Tu penches comme un silence d'église. Une rose plantée en pleine banquise. Tu devrais peut-être sous les mots chercher. Sous les mots chercher. Peut-être sous les mots, chercher.
David Thibault dans le débrief avec la pièce Sous les mots. Vous écoutez CLS FM 107,9. Merci d'être avec nous pour les prochaines 30 minutes. Le débrief se poursuit avec la nouvelle du jour. On va parler du recensement. Le recensement, ça évoque des souvenirs qui datent du printemps. On nous a beaucoup, j'allais dire, achalé avec le recensement. J'ai presque envie de dire harcelé, mais c'était pour la bonne cause. Le recensement revient à tous les 4 ou 5 ans et cette fois-ci, la participation des citoyens a été vraiment remarquable. On a atteint des niveaux records. Je vous lis quelques passages d'un article paru dans la presse canadienne cette semaine. Ça a été dans tous les médias, en fait. Je vous cite quelques passages. Donc, les Canadiens ont répondu massivement au recensement de 2016, tellement que Statistique Canada qualifie l'exercice de meilleur recensement de son histoire. Le taux de réponse pour l'ensemble de la population a été de 98,4%. Ce recensement se démarque sur deux autres plans, l'autodéclaration et la réponse par Internet, indique ce papier de la presse canadienne. Près de 9 ménages sur 10 ont rempli le questionnaire abrégé ou détaillé sans l'aide du personnel de Statistique Canada. Pour ce qui est des réponses par Internet, les Canadiens ont livré une performance olympique, a affirmé l'organisme dans son communiqué, avec un taux de réponse de 68,3%. C'est un record mondial pour ce qui concerne la participation via Internet. L'objectif de l'agence était de 65%. Statistique Canada ajoute que les résultats de l'exercice seront disponibles plus rapidement que lors des recensements précédents. Ainsi, les données sur les populations et les logements seront publiées le 8 février prochain. L'obligation pour chaque Canadien de répondre au recensement détaillé a été rétablie par le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Rappelez-vous, c'était une des promesses de la campagne électorale de l'année dernière, car en 2010, le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait remplacé le formulaire long de Statistique Canada par un document qui s'appelait l'enquête nationale auprès des ménages. Cette enquête donc était facultative, il n'était pas obligatoire d'y répondre. Donc du coup, le taux de participation a chuté énormément et les résultats étaient conséquemment moins fiables. Donc cette fois-ci, sans menace, c'est-à-dire cette enquête nationale auprès des ménages donc ne comportait aucune conséquence advenant le désistement du citoyen. Il n'y avait pas d'arrestation ni d'amende possible pour les citoyens omettant de répondre au formulaire. Donc le taux de réponse il avait chuté à 70%. Cet article de la presse canadienne nous rappelle que le recensement constitue la seule source de données démographiques et socio-économiques détaillées sur de petites régions géographiques. Le gouvernement fédéral se fie à ces données lorsqu'il alloue des ressources et des fonds aux provinces, notamment pour des activités dans les communautés linguistiques en milieu minoritaire. On se tourne à présent quelques instants vers la commission d'enquête sur les femmes autochtones qui débute ces jours-ci. Marion Buller, qui sera à la tête de cette commission, a déclaré aux médias qu'elle souhaite avancer prudemment. En interview à la veille du début de son mandat, en interview avec Radio-Canada, la commissaire en chef de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Marion Buller, a dit qu'elle prendra tout le temps nécessaire la commission d'enquête entame ses travaux donc le 1er septembre, c'était aujourd'hui, un mois à peine après l'annonce des noms des 5 commissaires qui la présideront. Nous partons de zéro, ça nous prendra du temps pour bien faire les choses, a précisé Marion Buller. Donc c'est un papier que vous trouverez sur radiocanada.ca et je termine la portion nouvelle du jour avec cette l'actualité qui nous arrive du Mexique. Le Mexique embarque dans le marché du carbone. Le gouvernement du Mexique a apposé hier sa signature à une entente tripartite prévoyant son adhésion au marché du carbone regroupant le Québec, l'Ontario et la Californie. C'est ce qu'ont déclaré en interview au journal Le Soleil, journal de Québec, les ministres québécois et ontariens de l'environnement, David Hertel et Glenn Murray. Ils étaient à Guadalajara, au Mexique, où ils participent actuellement au sommet des Amériques sur le climat. C'est une entente visant à poursuivre le développement commun de nos marchés respectifs du carbone en vue d'une éventuelle liaison, a précisé le ministre Hertel. Pour sa part, le ministre ontarien Glenn Murray a indiqué que cette entente tripartite venait renforcer la décision du Québec et de l'Ontario de choisir l'avenue du marché du carbone au lieu d'une taxe carbone. La Chine, le Japon, l'Europe, la Californie et maintenant le Mexique ont fait le même choix, a déclaré le ministre de l'Environnement ontarien Glenn Murray. Alors on sait que, et c'est d'ailleurs évoqué dans cet article par Glenn Murray, que le gouvernement Trudeau a l'intention d'instaurer une taxe carbone. C'est une taxe qui pourrait peut-être faire interférence avec cette entente tripartite de créer un marché du carbone au niveau provincial avec la Californie et le Mexique. Mais fait rassurant, le gouvernement Trudeau a salué l'arrivée du Mexique dans le jeu, se joignant donc à la Californie, au Québec et à l'Ontario. C'est un bon signe, donc ça laisse penser que le gouvernement Trudeau ne cherchera pas à détruire ou à repartir de zéro ou à ignorer les efforts qui ont été faits par le Québec et l'Ontario notamment. Du côté des autres provinces, bien sûr, il y a des ambitions. Elles se focalisent surtout sur d'éventuelles taxes sur le carbone. On sait qu'on a une taxe sur le carbone ici en Colombie-Britannique. Malheureusement, le niveau de la taxe n'a pas été relevé depuis plusieurs années et on a appris que le gouvernement de Christy Clark n'avait pas l'intention de relever le niveau de cette taxe, malheureusement. Bon, elle est toujours en vigueur. On verra dans les prochains mois. Certains leaders, en tout cas climatiques, se dégagent dans la fédération et le Québec et l'Ontario viennent de marquer un très bon coup en réussissant à rallier le Mexique. On retourne en musique. On va écouter Thomas Hugson avec une pièce qui s'intitule 23 km. On se retrouve dans quelques minutes pour une courte revue de presse. À tout de suite.
C'est ici qu'on se mesure à la distance qui nous sépare. Vagabond de plus en plus, de wagons au fil des rues. Ici les hommes ont réuni le fleuve et la rivière. Ils ont cousu les champs fleuris de 23 km de fer. Courte pointe de mille chemises, l'avenir se pointe dans la vapeur grise. Cœur plein d'abandon, tranquille au clair de lune, funambule comme des chatons. On frappe les rails comme une enclume, on forge ensemble une histoire tranquille dans les coulisses du centre-ville. Nos doigts se rejoignent au milieu, à l'épreuve des déraillements. Rien ne freinera les amoureux sur les lignes parallèles du temps. Sans frontières, insécables, itinéraire inséparable. Passage à niveau, on regarde approcher le train et les graffitis sur sa peau. Embrassons-nous pendant que la terre tremble, transportons-nous vers la lumière ensemble.
Thomas Hogson avec la pièce 23 km dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous d'infos quotidien à l'antenne de CILS. On va passer à présent à la revue de presse. J'ai repéré pour vous quelques papiers d'opinion, quelques éditoriaux pertinents sur la toile francophone. On commence avec un texte écrit par Jean-Robert Sans-Façon dans les pages éditoriales du journal Le Devoir, et c'est un texte qui interpelle directement le Premier ministre Justin Trudeau, qui est en Chine actuellement. Ça s'intitule tout simplement « Prudence, Monsieur Trudeau », et ça concerne les relations canado-chinoises. La Chine, écrit Jean-Robert Sans-Façon, est devenue le deuxième partenaire commercial du Canada en importance, loin derrière les États-Unis, mais devant le Japon, l'Angleterre ou tout autre pays européen. Faut-il pour autant se mettre à genoux devant ce géant dont l'ambition de dominer le monde est de plus en plus évidente? C'est la question que pose Jean-Robert Sans-Façon dans son lead. En Chine, continue-t-il, le développement accéléré a donné naissance à une classe moyenne sur laquelle les autorités misent de plus en plus pour alimenter la croissance intérieure et ainsi réduire la dépendance à l'endroit des pays développés. Les résultats sont impressionnants tant en matière d'infrastructures, trains rapides, aéroports, construction résidentielle, donc tant sur le plan des infrastructures que sur le plan du niveau de vie. Mais, dit Jean-Robert Sans-Façon dans ce texte, les Chinois sont les premiers à en payer le prix. Congestion routière permanente, pollution atmosphérique, accroissement des inégalités, corruption, fuite des capitaux. Capitaux qui fuient d'ailleurs du côté de la Colombie-Britannique et créent des bulles immobilières. Mais ça, c'est une autre question. Jean-Robert Sans-Façon poursuit dans ce texte. Plusieurs problèmes importants doivent être abordés au cours de cette visite du Premier ministre Trudeau en Chine. De façon urgente, il faut convaincre les autorités chinoises de revenir sur leur décision d'imposer des normes plus sévères à l'importation de canola, une affaire de 2 milliards par année pour les fermiers. Mais les Chinois ont aussi bien des attentes, notamment en matière d'investissement de leur société d'État. D'ici quelques années, on prévoit que la Chine, continue Jean-Robert Sans-Façon, investira l'équivalent de 1 billion de dollars US. Donc vous avez bien entendu 1 billion. En français, 1 billion, ça veut dire 1000 milliards. Donc la Chine veut investir l'équivalent de 1 billion en acquisition de sociétés étrangères dans tous les secteurs, du charbon et du pétrole au club sportif et aux producteurs culturels, en passant par les firmes de génie et d'informatique, écrit Jean-Robert Sans-Façon. Le Canada cherche des investisseurs étrangers, mais est-on désireux que le gouvernement chinois achète SNC-Lavalin, par exemple, ou encore nos mines de fer et le bitume de l'Alberta, se demande l'auteur. Monsieur Trudeau souhaite que plus de touristes chinois visitent le Canada et que plus d'étudiants chinois s'inscrivent dans nos universités, oui, mais il veut aussi accueillir plus de travailleurs temporaires, une mesure fort critiquée lorsque les conservateurs l'avaient avancée. Donc, sommes-nous prêts, se demande l'auteur, à voir des sociétés d'État chinoises s'installer chez nous avec leur personnel? Il écrit enfin, il est aussi question d'un traité de libre-échange, comme en Australie. Un tel traité implique la libre circulation des investissements. Encore là, sommes-nous prêts à ce que des sociétés chinoises qui ne respectent pas les droits de la personne chez elles utilisent un tel traité pour contester des mesures de protection de la main-d'œuvre ou de lutte contre le réchauffement climatique, par exemple, sous prétexte que ces règles, ces mesures de protection nuisent à leur rentabilité? Donc, c'est des questions pertinentes que Jean-Robert Sans-Façon adresse au Premier ministre Justin Trudeau, qui est actuellement en visite d'État en Chine. Je vous parle à présent d'un texte paru sur le portail Ricochet, oui, qui est un portail anglophone et francophone indépendant. Du côté francophone de ricochet.info, on a un compte-rendu sur la vie après la politique de Jean Charest, l'ancien premier ministre du Québec et ancien chef du Parti conservateur. C'était avant Stephen Harper, bien sûr. Donc, Jean Charest, qu'est-il devenu? C'est ce que veut éclairer Xavier Camus dans ce texte paru sur Ricochet. Xavier Camus, qui est professeur de philosophie. Il écrit « Loin des projecteurs, Jean Charest parcourt encore les corridors du pouvoir. Quittant la vie politique pour redevenir simple citoyen suite à la défaite de son parti en 2012, Jean Charest n'a pas tardé à se trouver un nouvel emploi au cabinet McCarthy-Tétrault à Montréal. Après une longue et fructueuse carrière à la tête du Parti libéral du Québec, qui lui a valu le nom de suspect numéro un dans la foulée de la commission Charbonneau, qui est une commission qui examinait le financement des partis politiques avec une focalisation particulière sur les prête-noms, sur l'usage de prête-noms par les sociétés d'ingénierie et les entreprises de construction, tout le financement occulte. Donc, et à l'issue de cette commission, devant laquelle Jean Charest malheureusement n'avait pas comparu, l'ancien premier ministre était tout de même considéré comme un suspect de l'avis de plusieurs observateurs et de plusieurs commentateurs de la scène politique. Donc, qu'est-il devenu justement au cours des dernières années? C'est la question que se pose Xavier Camus. Je ne crois pas que j'aurai la possibilité de vous lire tous les passages de ce très bon papier paru sur Ricochet. Je vous en lis quelques lignes encore. « Hélas, Jean Charest ne chôme pas. Il travaille activement à la promotion d'un traité de libre-échange néolibéral entre le Canada et l'Union européenne. Cet accord économique et commercial global, qui encore une fois ne profitera qu'à une minorité de grands intérêts publics, est fortement contesté par des centaines d'organismes citoyens. » Ainsi, tout en se terrant dans l'ombre, il continue subrepticement d'être un incontournable leader de l'élite économique canadienne. Et l'auteur fait allusion, bien sûr, aux positions extractivistes de Jean Charest. Jean Charest est l'auteur d'un plan de développement du Grand Nord québécois qui s'appelait tout simplement le plan Nord, et c'était un plan extractiviste qui donnait la part belle aux compagnies minières, pétrolières et de l'industrie du bois. Voilà, donc ce texte de Camus revient là-dessus, revient sur ses positions extractivistes et sur certains contrats de lobby qu'a accepté Jean Charest au cours des dernières années. on a appris qu'il avait accordé ses services à TransCanada qui souhaite construire un pipeline Énergie Est. Ça vous dit sûrement quelque chose. Les histoires de pipeline sont dans l'actualité actuellement. Donc Jean Charest avait offert ses services à TransCanada et il avait, c'est ce qu'on a appris récemment, en début d'année en fait, il avait reçu des commissaires de l'Office national de l'énergie dans ses bureaux chez McCarthy Tétro à Montréal, ce qui était finalement du lobbyisme et qui et contrevenait à certaines règles, et c'est ce qui a aussi projeté dans l'eau chaude l'Office national de l'énergie, qui a longtemps nié qu'une telle rencontre avait eu lieu. Bref, on referme la parenthèse. Ce texte est très informatif sur la carrière de Jean Charest depuis sa défaite du 4 septembre 2012. Il n'a pas cessé de travailler et, comme le dit l'auteur Xavier Camus, hélas, il n'a pas chômé. C'est signé Xavier Camus, professeur de philosophie. C'est un texte que vous trouverez dans la page d'accueil du portail francophone de Ricochet, ricochet.info. Alors, on a encore quelques minutes. On n'aura peut-être pas le temps d'aller en musique. Je vais vous passer l'entrevue du jour dans quelques instants après cet intermède. Je vous le disais en ouverture d'émission, on a aujourd'hui un duo au bout du fil. Il s'agit de Aloïs Gallet et d'Alexa Camargo. Ils sont de la société Albor Pacifique. Ils m'ont accordé une entrevue un peu plus tôt aujourd'hui. Ils étaient de passage à Victoria récemment pour compléter un projet à l'école Victor Brodeur. C'était un projet environnemental d'initiation à l'hydroponie. La petite compagnie d'Aloïs et d'Alexa se spécialise dans les services conseils en environnement. Donc on va écouter leurs propos dans quelques instants. Restez à l'écoute. Vous êtes toujours à l'antenne de CILS FM 107,9 dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous d'infos quotidien à Victoria. J'ai avec moi pour le segment interview du jour Monsieur Aloïs Gallet et Madame Alexa Camargo. Ils sont tous les deux à la tête d'une petite start-up vancouveroise spécialisée dans les services environnementaux, les solutions environnementales. Ils sont de passage à Victoria. Ils m'ont accordé une courte entrevue à propos d'un projet qui s'appelle EcoNova. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, Alexis.
Alors, est-ce que c'est possible d'expliquer un petit peu ce projet que vous avez mené en milieu scolaire? Et c'est un projet, bien sûr, à thématique environnementale, fidèle à votre orientation.
Oui, alors le projet EcoNova, tout a démarré au mois de mai dernier. Un projet qui est mené avec la Société de développement économique pour le Conseil scolaire francophone et qui consiste à développer un programme complet, un programme environnemental pour les écoles du CSF avec deux grandes parties. Une partie pour les plus jeunes qu'on a appelé la production d'un guide d'activité. C'est toutes des activités scientifiques et écologiques qui permet aux plus jeunes d'être introduits à l'environnement, aux sciences de l'environnement. Et une deuxième partie pour les plus grands, pour le secondaire notamment, qui consiste en des projets pilotes, des projets d'hydroponie, des projets de micro-ferme et qui permettent aux élèves d'étudier les sciences dures notamment, à travers ces outils pédagogiques pour mener des expériences et produire notamment des fruits, des légumes et des herbes et puis découvrir un petit peu toute la magie de la nature et les sciences qui sont derrière.
Est-ce qu'ils sont réceptifs, les jeunes étudiants de la région de Victoria? Est-ce qu'ils ont la bosse de l'environnement, diriez-vous?
Oh, je crois que oui, puisque les jeunes de Victoria et notamment les élèves de l'école Victor Brodeur ont été sollicités sur ce projet dès le mois de mai et ils ont eux-mêmes validé et poussé le projet pour être bénéficiaires d'un laboratoire d'hydroponie dès la rentrée, donc dès la semaine prochaine.
Waouh, d'accord. Et ça s'est étendu sur une période de combien de temps? Est-ce que c'était même pendant les vacances? Est-ce que les jeunes travaillaient avec vous durant leurs vacances?
Non, alors nous, on a installé les équipements pendant les vacances pour que les jeunes puissent en profiter à la rentrée. Le programme, lui, s'étend sur une première période de 2 ans. Mais là, c'est la surprise pour les élèves qui vont rentrer en classe la semaine prochaine que découvrir ces installations, ces équipements.
Alors, ils apprennent quoi à travers tout ça en termes de savoir, de connaissances, mais aussi en termes de réflexion sur l'environnement, sur les conditions écologiques? Qu'est-ce qu'ils acquièrent?
Alors, en fait, nous avons développé donc un programme qui est lié aux installations. Et en fait, ils ont un apprentissage pratique avec les installations. Donc, ils vont apprendre la biologie, la chimie, la physique, mais des manières un peu plus pratiques, de manière illustrée avec les installations. En fait, les installations, c'est un moyen, c'est un outil d'apprentissage. Et donc, ils apprennent, par exemple, l'hybridation des tomates, la génétique, la photosynthèse avec les installations.
Oui.
Et de la même manière, donc ils ont une, comme tu disais, une réflexion sur l'environnement, sur ce qui les entoure. C'est un peu un retour aux sources parce qu'ils sont en train de créer un lien avec la nature en quelque sorte. Et puis, je pense aussi que ça leur fait avoir une certaine conscience, non seulement sur l'environnement, mais aussi sur d'autres sujets qui sont aussi importants pour des jeunes, comme l'alimentation, la nutrition, du bien manger, un peu une conscience sur les régimes alimentaires. Et il y a un documentaire qu'on aime beaucoup, de Jimmy Olivier, c'est un Américain, et par exemple, il disait en fait, l'enfant qui fait pousser une salade, qui fait pousser une tomate, c'est un enfant qui va manger de la salade et des tomates. Donc,
oui.
Je pense que c'est ça la clé des installations, c'est que c'est un vrai moyen pour apprendre plein de choses et pour leur faire prendre conscience sur plein de sujets.
Et ce projet s'inscrit dans quelle durée? Est-ce qu'il est permanent?
Oh, il sera permanent. Faut compter sur nous pour ça. Il, comme je disais tout à l'heure, Alexis, donc la durée initiale est de 2 ans.
Oui.
Et donc, c'est la durée pour laquelle le CSF lance le projet, mais j'ai bon espoir que ce sera prolongé dans le temps puisque les sujets environnementaux, les sujets de nutrition sont des sujets clés, des enjeux de demain.
Oui.
Et on s'assure aussi que les formations, les introductions à l'environnement environnemental qui vont être dispensées dans le cadre de ce projet permettent aux élèves de trouver des débouchés plus intéressants lors de la poursuite des études universitaires et à terme dans la recherche d'emploi. Je suis persuadé que ce projet va s'inscrire dans la durée, bien au-delà des 2 ans initiaux.
Et on compte beaucoup de parents parmi parents de Victor Brodeur dans les auditeurs de la station. Est-ce que les parents ont été réceptifs aussi? Est-ce qu'ils ont pu jeter un petit coup d'œil à ce que faisaient leurs enfants dans le cadre du projet?
Le cas, ils ont été présentés, on leur a présenté, on n'était pas là, c'était le CSF qui a présenté lui-même le projet à l'Assemblée des parents d'élèves, je crois, au mois de mai, et les échos qu'on a eus étaient très positifs. L'inauguration des installations aura lieu dans les prochains mois, donc les parents pourront voir de leurs propres yeux en quoi elle consiste. Et je crois que les parents sont très réceptifs également.
Et puis, je voudrais ajouter, en fait, je pense que c'est pour les parents comme pour les enfants, c'est une fierté, par exemple, d'avoir des bonnes notes. Mais avec les installations, ce qui me semble génial, c'est que il y a vraiment le sens du travail accompli, c'est-à-dire la satisfaction, elle augmente. C'est pas la même chose d'avoir des bonnes notes à avoir des pousses de tomates avec lesquelles tu as eu des bonnes notes. En fait, je pense que le sentiment de satisfaction augmente énormément.
Très intéressant. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants de cet âge ou qui sont peut-être à la retraite, on a beaucoup d'auditeurs à la retraite, est-ce qu'il est possible de voir quelques photos sur votre Facebook ou sur le Facebook de Victor Brodeur peut-être?
Très bientôt. On attend que Victor Brodeur ait pu présenter lui-même son projet et on mettra nos photos en ligne très rapidement. On est juste soumis à un respect du protocole pour l'instant. Un peu de patience.
D'accord. Alors ça s'appelle Econova. C'est très novateur justement. C'est un projet d'Aloïs Gallet et d'Alexa Camargo de l'entreprise Albor Pacific, une start-up de Vancouver. Merci à tous les deux d'avoir téléphoné et d'avoir participé à cette interview dans le cadre du débrief.
Merci Alexis.
Merci à toi Alexis.
Merci, à bientôt.
Bye.
Voilà, c'est déjà tout pour les débriefs. Merci d'avoir été à l'écoute au cours de la dernière heure. On va se laisser dans quelques instants. On se retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien.